Léon Sazy, La belle vampire. Chapitre 1er, contre les espions. Pour la première fois peut-être depuis que je le connaissais, que nous faisions dans sa voiture des courses dans Paris ou des randonnées dans la campagne, Martin Numa parla tout en roulant. Jusqu'ici, dès qu'il montait en voiture, il se mettait dans le fond, allumait une cigarette et, silencieusement, fumait tout en regardant par la portière. Moi, qui connaissais si bien ses manies, de même que ses seconds Prosper et Philippe, je respectais son silence. Pour rien au monde, je lui aurais posé la moindre question sur l'affaire en cours. Il fallait d'ailleurs, nous le savons, lui parler où que l'on se trouvât, à quelque occasion que ce fût, sous n'importe quel prétexte, quand lui-même ne parlait pas ou ne vous posait pas de questions. Ainsi donc, grand fut aujourd'hui mon étonnement, quand, dès que son auto se mit en marche, lorsqu'il eut tiré quelques bouffées de sa sempiternelle cigarette, Martin Numa, au lieu de se pencher, de regarder par la portière, se tournant vers moi, me dit « Eh bien, mon bon Courville, j'espère que vous êtes content de votre matinée. La journée s'annonce bien. Oui, merveilleusement. Je crois que vous avez, si l'on sur la planche, comme on dit habituellement en pareil cas, du moins dans votre stylo, matière à un reportage sensationnel, comme on en voit rarement. » « Oui, je crois avoir les éléments d'un des plus beaux papiers de ma carrière. » Dans cette affaire des plus mystérieuses, dès le début, je prévois que les surprises les plus grandes nous sont réservées. Oh, je le crois aussi. Nous devons nous attendre à des coups de théâtre extraordinaires. Oui, fantastique, de quoi faire palpiter les foules. Tout Paris, qui sait que vous m'accompagnez, attend votre copie, va dévorer vos articles avec frénésie. Grâce à vous, à votre stylo, mon cher. Oh, mon stylo ne pourra faire connaître au public ce que Martin Numa, le roi des détectives, aura accompli. Martin Numa, en riant, me coupa la parole. Allez, trêve de compliments, mon bon Courville. Nous sommes deux trop vieux camarades pour nous donner des coups d'encensoir à travers la figure. Mais vous rendre justice n'est pas vous encenser, et je sais que la flatterie ne prend pas avec vous. D'autant plus que nous avons travaillé côte à côte et souvent partagé les mêmes dangers assez de fois déjà depuis bon nombre d'années, pour que nous ne tirions par vanité devant le public du résultat heureux d'une affaire. Ici, comme toujours, une seule chose nous intéresse, nous passionne. C'est la poursuite de ce résultat, c'est la difficulté du problème, de la réussite à résoudre, c'est le danger même que peut contenir la recherche de cette solution, qui, le lendemain de la réussite, nous méritera les applaudissements, que d'ailleurs nous n'entendrons pas. C'est exact. Mais avant tout, il faut arriver à cette réussite. Évidemment, si ce n'est pas le plus commode, c'est comme vous le disiez, le plus intéressant. Eh bien, poursuivons donc l'affaire, mon cher Courville, et surtout ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir en main. Martin Numa ajouta, « Et je crois que notre ours, cette fois, nous donnera quelques peines. » D'autant, mon cher ami, que cette fois, l'ours à abattre est multiple. Multiple, dis-je avec étonnement, ne comprenant pas très bien le sens de cette parole. Oui, multiple, enfin multiforme, divers et ondoyant. Et en riant, le roi des détectives s'écria, c'est beaucoup, hein? Oui, pas mal, mais ça vous va. Vous n'aimez pas les affaires simples et trop faciles. Eh bien, mon bon Courville, dans ce cas, cette fois, je crois que nous sommes servis à souhait. Martin alluma une nouvelle cigarette et me dit: Voulez-vous que nous récapitulions ensemble la donnée du problème qui se pose à nous depuis tout à l'heure? Très volontiers. J'avoue même que j'en serais très heureux pour la clarté de mon reportage. Avant de répondre, Martin Huma me dit, changeant de ton: D'abord, regardez par la portière. Où sommes-nous? Aux Champs-Élysées, répondis-je avec stupéfaction. Et où allons-nous? Rue d'Amsterdam. Alors vous devez trouver que passer par les Champs-Élysées, prenez de la rue Le Pelletier à la rue d'Amsterdam, en somme presque voisine, c'est une singulière façon de voyager. Pour tout autre que vous, assurément, mais pour faire ce détour, pour vous, vous devez avoir de bonnes raisons. Courville, mon ami, vous avez dit la vérité. Une des raisons est que je tiens à dépister ceux qui auraient la fantaisie de nous suivre. Comment vous croyez? Je suis persuadé que j'ai des espions dans mon sillage, ce qui vous donnerait à supposer que vous alliez encore avoir une affaire à une bande. Nous verrons. Bon, la seconde raison est que je veux, sans être gêné, pouvoir jeter un coup d'œil chez Charles Castanier. Ah, le fils de la victime. Vous croyez que ce garçon a pu commettre ce parricide? Courville, quelle question! Vous savez que je n'ai rien à supposer, rien à croire, mais seulement à voir. Oui, très juste, excusez-moi. Revenons au problème. Le voilà dans sa tragique et, comme je vous l'ai dit, multiple simplicité. On a découvert dans son bureau le riche banquier Castanier, mort sans blessure apparente, et à côté de lui, sa fille aînée Irma, morte et portant elle au cou les traces de très visibles de strangulation. Chercher le coupable et la raison du meurtre, voilà la donnée du problème. Rien de plus clair, rien de plus simple. En apparence, pour arriver à le résoudre, nous avons des documents qui l'embrouillent admirablement. Nous avons le visiteur brun à démarche militaire portant des bottines vernies. Nous avons le marquis de Carmine Santucci, fiancé de la victime Irma et qui porte aussi des bottines vernies. Le marquis, qui prétend en être venu qu'une fois à la banque, quand le solennel portier affirme qu'il est venu deux fois. Le marquis, que l'ami Bessette, ami du père du marquis, ami du marquis lui-même, ne reconnaît pas. Mais alors, m'écriai-je, ce marquis. Attendez, mon bon Courville, me dit vivement Martin Huma. Attendez, nous avons Charles Castanier, fils du banquier, qui avait besoin d'argent et qui, pour en avoir, fait des menaces terribles. Sans doute, mais pour avoir de l'argent, tuer son père, sa sœur. Attendez, court-il, voilà les personnages. Nous avons ensuite, et ceci est à notre profit, nous avons des écorchures de bottines vernies. Nous avons des signatures du coupable, les empreintes des doigts, du pouce sur le bloc-notes, oui, l'empreinte avec son auréole graisseuse, la signature de la main qui a étreint le cou charmant de la morte. Eh bien, mon bon Courville, soyons méthodiques et commençons par le commencement. Nous n'avons pas besoin de rechercher le marquis Carmine di Santucci. Nous le verrons toujours soit chez celle qui devait devenir sa belle-mère, la femme du banquier Castanier, soit chez lui, soit même chez son ami, le prince Ramolino, qui l'a, vous vous en souvenez, donné comme preuve d'alibi lors de la déclaration du solennel portier. Oui, je l'ai noté. Bon, nous avons à rechercher l'homme brun à allure militaire qui avait des bottines vernies. Nous pourrons sans doute trouver son adresse dans les papiers et les fiches du banquier. Reste maintenant Charles Castanier fils, qui avait besoin d'argent et qui a fait des menaces. Or, le bon père Morrison nous a appris que Charles Castanier avait enlevé sa fille Blanche. Et s'il a enlevé la fille du père Morrison, il n'a pas dû rester chez lui. Mais c'est probable. Il a dû filer avec elle vers les deux cieux plus tranquilles. Surtout s'il a commis cet horrible crime. Qu'il l'ait commis ou non, il a pris le large avec Blanche Morrison. Nous allons voir aussi ce que vaut cette Blanche Morrison. Peut-être complice. Oh, nous verrons. Ce couple d'amoureux, coupable ou non, n'a pu partir que dans la soirée, hier ou aujourd'hui, dans la matinée. Donc, nous allons trouver l'appartement de Charles Castanier encore intact. Personne n'a eu le temps d'y toucher, de mettre les doigts sur les objets, d'y imprimer des traces parasites. Ah, je comprends, vous espérez découvrir chez Charles Castanier des empreintes pour les comparer à celles du feuillet du bloc-notes. Mais tout simplement, il faut donc que nous arrivions les premiers. Naturellement. Et c'est pour aller plus vite que nous avons fait ce détour par les Champs-Élysées, et que nous voici sur les boulevards extérieurs. Nous étions arrivés place Clichy. L'auto, sans que Martin Huma ait donné aucun ordre, s'arrêta devant un des cafés. Nous allons prendre un porto, mon cher Courville. Il est impossible, dans ce flot d'auto qui vient dans notre sens, de reconnaître celle qui probablement nous donne la chasse. Bon, oui, absolument impossible. Mais en nous asseyant à la terrasse ou près d'une porte, nous verrons bien les autos qui vont s'arrêter devant le café, et les clients ayant envie, comme nous, de se rafraîchir. Oh, je connais à peu près tous les clients de ce café. Je distinguerai donc un étranger. Mon flair m'indiquera le suspect. Alors nous allâmes prendre place sur la terrasse. Martin Huma fumait sa cigarette sans rien dire, enveloppant d'un coup d'œil rapide qui entrait ou sonnait s'asseoir non loin de nous. Au bout d'un moment, il me dit: Ben, je ne vois rien. On ne nous suit pas. Ou bien, méfiant un roublard, on nous espionne d'un autre point. Bon, nous allons voir. Vous devez bien imaginer le moyen de le dérouter. Ben, nous allons essayer, tout au moins. Partons. Martin Huma me fit traverser la place Clichy. Nous prenons le métro. Peu après, posté sur le quai, il étudia, sans en avoir l'air, tous les clients qui donnaient leurs billets à pointer. Et presque au moment où le train se mettait en marche, il me poussa dans le dernier compartiment. Nous allons, me dit-il, en sens opposé de l'adresse où nous voulons aller. Ah, c'est encore un moyen à vous pour y arriver plus vite, ou tout au moins pour y arriver plus sûrement. À la station Marcadet, il me dit: Attention, Courville, nous allons faire la même manœuvre, mais en sens contraire. Sautez sur le quai au moment où les portes se fermeront. La manœuvre fut parfaitement exécutée, en dépit des grognements de quelques voyageurs que nous avions dû bousculer. De cette façon, me dit Martin Huma, nos suiveurs, même s'ils ont deviné notre intention, n'ont pas pu sauter du train et nous suivre. Alors nous n'eûmes plus qu'à passer sur l'autre quai, à refaire le chemin, et peu après nous sortions de la station Saint-Lazare. Encore un moment d'étude, un coup d'œil dans les environs, un regard sur les passants, et Martin Huma, ayant pour occuper en apparence ce temps d'inspection, acheter un journal à un kiosque, m'entraîna. Ben, nous pouvons aller sans crainte. Et à pied, à pas de promenade, nous arrivâmes devant la maison où habitait Charles Castanier. Chapitre 2. L'infamie d'autrefois. Pendant que nous opérions ces manœuvres pour dépister les espions éventuels, dans une autre maison où, sous tant de précautions, nous devions pénétrer, se déroulait une scène des plus dramatiques, des plus touchantes. « Maman, maman, où êtes-vous ? » appela une voix anxieuse de jeune fille. « Mais ici, mon enfant, dans la salle à manger, je prépare les tartines pour le petit déjeuner. Voyons, qu'y a-t-il ? » Dans la salle à manger, modeste, mais propre, la jeune fille se précipita. Elle entra en coup de vent, en tenant à la main le journal déplié. « Oh, maman, quel événement !»« Voyons, Antoinette, voyons, ma fine, tu m'effraies. Te voilà toute pâle, toute tremblante. Quel est l'événement qui te bouleverse ainsi ?»« Un crime atroce !»« Un crime ?» La mère, qui en étendait sur des tranches de pain grillé du beurre frais, délicatement s'arrêta, prise à son tour par cette angoisse de sa fille. C'était une femme aux cheveux blancs, vêtue simplement d'un costume du matin, en deuil à un fichu de dentelle noire sur sa tête doucement penchée. Fine, ayant dû être jolie, le visage pâle, long, à la ligne très nette de profil, mais les yeux enfoncés, au bord rougi, les yeux des gens qui veillent ou qui pleurent. Antoinette, jeune fille de 20 à 22 ans, gracieuse, fraîche, posa sur la table le journal et se laissa, comme essoufflée, tomber sur une chaise, posa un doigt sur la colonne qui relatait l'événement. « Monsieur Castanier a été assassiné hier !» La mère, cette fois, sursauta. La secousse fut si forte qu'elle s'appuya pour se retenir à la table devant laquelle, aussi accablée, venait de s'asseoir Antoinette. « Monsieur Castanier !» s'écria-t-elle, la voix serrée. « Monsieur Castanier assassiné ?» « Oui, et avec son père, Irma. » Irma étranglée. Oh, c'est épouvantable, c'est affreux. Les deux femmes se regardaient effarées. Une minute pleine d'horreur s'écoula dans cet effroi. La mère se ressaisit cependant et dit d'une voix mal assurée encore. Ton frère ne connaît peut-être pas encore ce crime. « Je ne crois pas, mère. Robert n'est pas sorti hier soir et j'ai lu les journaux ce matin. Appelle-le, fais-le venir ici. » Péniblement, la jeune fille se leva, alla dans le corridor suivant la salle à manger et frappa à une porte. « Robert, viens, maman veut te parler. » De la chambre, une voix mâle, sonore, joyeuse, répondit. « Voilà, voilà !» Presque aussitôt, la porte s'ouvrit. Un jeune homme en sortit en tenue du matin. Grand, bien découplé, la figure bronzée, coupée d'une moustache noire relevée, les yeux clairs, un homme de 32 ans, robuste, décidé, l'allure militaire. À la boutonnière gauche, un mince filet rouge, le trèfle d'honneur. Il attrapa en courant sa sœur, qui n'avait pas encore regagné la salle à manger. « D'abord bonjour, Toinette !» s'écria-t-il. « Tu viens me dire que les tartines sont prêtes ?»« Jamais plus radieuse trompette n'a sonné la diane, soit disant que le mot trompette offense ta jolie figure !» Riant de sa plaisanterie fraternelle, il entraîna sa sœur par le bras et entra dans la salle à manger. « Bonjour, maman » fit-il de la porte. Et allant à sa mère, il l'embrassa tendrement. « Avez-vous passé une bonne nuit ?»«
Merci, mon enfant, excellente !»
elle continua.
« Mais certes, je ne m'attendais pas à la terrible nouvelle de ce matin. »«
Quelle nouvelle terrible !» Ensemble, la mère et la fille s'écrièrent.
« Monsieur Castanier a été assassiné !»
Robert fit un bond en arrière, comme s'il avait reçu un coup formidable en pleine poitrine.
« Hein, vous dites ? »
s'écria-t-il, ne comprenant pas encore. « Vous dites ?»
Monsieur Castanier a été assassiné.
Mais c'est pas possible, quand assassiné?
Hier, vers 5h30, dit Antoinette.
Mais c'est impossible, oui, impossible. À 7h précisément, oh, oui, c'est impossible.
Et à côté de lui, sa fille Irma était également étranglée.
Cette fois, Robert ne put, tant la surprise était grande, articuler la moindre parole. Sa gorge serrée ne permettait pas au souffle de sortir. Les lèvres remuaient pour dire quelque chose, mais demeuraient muettes. La figure ouverte, franche, joyeuse de Robert, tout à coup se couvrit de pâleur, une sueur froide perla à ses tempes. Et ses yeux dilatés étrangement regardaient avec effarement la mère, la jeune fille, qui de leur côté contemplaient avec une émotion poignante ce changement subi et profond survenu chez lui. Après quelques secondes d'épouvante atroce, Robert finit par reconquérir son souffle, par recouvrer la possession de soi-même.
« Oui, dit-il, oh, mais... » d'une voix encore rauque, pénible. C'est affreux, terrible, plus terrible que tout ce que vous pouvez croire, c'est épouvantable.
Puis redevenant finalement maître de lui, il se rapprocha de sa mère et de sa sœur.
C'est le journal qui dit cela, qui annonce ce crime?
Oui, mon fils, je n'ai pas encore pris connaissance de l'article, mais Antoinette l'a lu. « Oh !» s'écria la jeune fille, « j'en suis encore tout ému !»
Robert prit une chaise, s'empara du journal et commença la lecture du reportage signé Courville, qui, ce matin, jetait la stupeur dans Paris. Il parcourut avidement, dévorant, pour ainsi dire, des yeux, n'allant pas assez vite encore pour son impatience le long article. Il le lisait à mi-voix, malgré lui. De temps en temps, des interjections d'angoisse s'échappaient de ses lèvres.
« Oh, la malheureuse Irma! Oh, épouvantable, mais c'est affreux !»
Tout à coup, il poussa un cri. «
Oh, malheur! Malheur sur nous !»
Ses mains tremblèrent et laissèrent échapper le journal qui voleta et retomba sur la table. Ses tempes se couvrirent aussitôt de sueur et il resta immobile, les yeux fixes comme figés dans une crise d'horreur, d'épouvante. Inquiète, sa mère et sa sœur s'approchèrent de lui.
« Robert, Robert » firent-elles, « qu'as-tu ? »
Faisant un effort sur lui-même, par un appel suprême à toute sa volonté et toute son énergie, il domina ses nerfs et redevint maître de lui. Et, cherchant un sourire qui ne fut qu'une crispation de sa bouche, il dit, passant sur son front ruisselant le dos de sa main tremblante,
« Rien, mais rien, ma chère Antoinette, pardonnez-moi, rien, mais... tant de souvenirs douloureux s'éveillent en moi à cette lecture. Malgré moi, dans mon esprit, se fait un rapprochement si pénible entre la mort de mon malheureux père et celle de cet homme, que tout mon être a frémi, que je suis emporté hors d'ici,
et que je ne suis plus moi. »
Alors il se leva, écarta doucement les deux femmes, penchées anxieusement sur lui. Il fit quelques pas dans la pièce, épongeant sa figure avec son mouchoir. Sur la servante, il prit une carafe et se versa un grand verre d'eau qu'il avala d'un trait. Et revenant à sa mère, « Donc, s'écria-t-il, la voix claire maintenant et sonore, donc il y a bien réellement une justice au ciel. Et la main de Dieu qui châtie n'est pas une vaine métaphore de littérature. La justice immanente se manifeste, tard parfois, mais infailliblement. Les misérables sont punis, sont frappés de façon implacable. « Mon fils, dit doucement la mère, calme-toi, mon enfant, devant la mort, la haine s'efface. » « Non, ma mère, la haine a des raisons qui demeurent même devant les tombes. Pitié !»« Jamais, pas de pitié, a-t-il eu pitié, lui ?»«
Mais il y a une innocente de frapper. »
Et ici, il y en a deux, il y en a trois. N'êtes-vous pas innocente, vous, ma mère? Antoinette, n'est-elle pas innocente? Et moi, qu'ai-je fait? N'avons-nous pas une victime, un martyr, mon père, que cet homme assassiné aujourd'hui a tué autrefois?
Robert, mon fils Robert, tais-toi! « Ta sœur t'entend. »«
Eh bien, qu'elle sache donc, s'écria le jeune homme tout vibrant, qu'elle sache enfin. Antoinette aujourd'hui est femme. Elle peut prendre sa part de notre douleur. Elle peut savoir enfin ce qui pèse sur votre vie, sur la mienne. Elle peut partager notre haine qui ne s'éteindra jamais. Antoinette est femme. » Elle peut commencer à souffrir. Elle doit d'ailleurs tout savoir parce qu'elle est héritière de notre haine et qu'elle doit la perpétuer. Ô ma mère, les années pour vous ont compté double et votre vaillance peut céder à la douleur incessante qui vous ronge. Moi, je suis allé conquérir un peu de gloire pour notre nom flétri. J'ai déjà payé largement de mon sang ce petit filet rouge. Mon métier de soldat me met à la merci d'une balle. Si Antoinette reste seule, il faut qu'elle sache, pour que son mari, ses enfants, continuent notre haine. Et, s'écartant de sa mère qui voulait l'empêcher de parler, Robert prit sa sœur par la main et l'entraînant un peu, lui dit « Écoute, Antoinette, écoute et souviens-toi à jamais, écoute. Notre père était l'homme le plus honnête, le plus loyal qui fût. Son cœur ouvert et franc ignorait tout mal, toute perfidie. Il avait un ami en qui il avait foi, comme en lui-même. Notre père épousa la jeune fille digne de lui, la femme que Dieu avait créée pour lui, notre mère. Et au bout de 2 ans, un enfant fut la consécration de cet amour, notre frère aîné qui est mort en bas âge. Puis, 3 ans ensuite, je pris, moi, la place de l'absent. Puis il est venu que plus tard. Cet amour, ce bonheur avait besoin d'une fleur, ce fut toi. Dans l'intervalle, notre père, qui s'occupait d'affaires commerciales et restait parfois de longs mois absent, fit un héritage considérable pour lui, quelques centaines de 1000 francs. Notre père, forcé d'en reprendre un long voyage en Amérique, et ne voulant pas faire endurer à notre mère, dont la santé était délicate, les fatigues d'un pareil déplacement, partit seul, En partant, il confia toute sa fortune à cet ami qui se chargeait de la faire fructifier, de l'employer dans diverses spéculations qu'il entreprenait, associant notre père à ses réussites, certaines, affirmait-il. Quand notre père revint après 2 ou 3 ans de séjour au loin, l'ami, le fidèle ami, se déclara ruiné et avouait qu'il avait perdu aussi l'argent de son associé. Notre père ressentit lourdement ce coup terrible, mais il ne garda aucune rancune contre son ami malheureux, compatit lui-même à ses infortunes. Il le savait intelligent, actif et comptait qu'il se relèverait bientôt. L'ami lui promit de lui rendre son argent avec les intérêts d'usage. Notre père, ruiné en somme par cet ami, repartit pour refaire sa fortune. Au loin, il apprit que son ami avait ouvert une maison de banque, que cette banque prospérait. Il sut que, par quelques coups d'une rare audace, son ami avait déjà gagné plusieurs millions. De son côté, la chance ne lui avait pas souri. Il revint en France, malade, épuisé, mais confiant, croyant que cet ami fidèle, heureux aujourd'hui, allait tenir ses engagements des jours pénibles. Le fidèle ami le reçut de haut. Il eut l'air de ne pas se souvenir de ce dépôt fait autrefois. Et comme notre père insistait, il lui défendit froidement sa porte. « Oh, mais c'est odieux !» fit Antoinette. « Tu ne sais pas tout encore, ma sœur. » Robert passa son mouchoir sur ses lèvres, redressa ses fines moustaches brunes et reprit. Notre père, furieux, perçant enfin à jour cet homme, comprenant trop tard la vérité, voyant en quelles mains rapaces il avait mis imprudemment sa fortune, malade, ne parvenant pas à se faire rendre son bien, s'adressa aux tribunaux. La loi est la loi, la justice est la justice. Mais souvent le code n'a que la lettre, nullement l'esprit du droit. Devant les magistrats, notre père ne put suffisamment fournir de preuves non morales, elles étaient évidentes, mais immatérielles, de son dépôt, de la remise de son argent. Et l'ami millionnaire osa, sous la foi du serment, nier le dépôt. L'affaire traîna. Le millionnaire pouvait supporter les frais énormes du procès. Notre père s'y ruinait. Et malgré la plaidoirie admirable de son avocat, notre père perdit son procès. Il en appela, il perdit encore. Le texte du code était contre lui. Sa parole d'honnête homme dépouillé ne valait pas autant que le serment du millionnaire voleur. Le jugement que je te ferai lire dans la Gazette des tribunaux comporte des considérants, des attendus, qui sont un brevet d'honneur pour celui que la loi frappait. Et ils mettent au front du misérable qui gagnait son procès odieux une marque d'infamie que rien ne pouvait enlever. La mère intervint. « Robert, mon fils, assez. Antoinette n'a plus besoin de savoir. »« Pardon, ma mère, il faut qu'elle sache tout. Il faut qu'elle boive la coupe d'amertume, car la haine est au fond, et la vengeance aussi. » Robert reprit, plus vibrante encore. Notre père, se voyant dépouillé, condamné doublement, ruiné et malade, se sentait à présent incapable de reprendre la lutte. Notre père, que le luxe de son voleur éclaboussait, en rentrant chez lui où la gêne arrivait, eut un mouvement de folie. Il voulut, puisque la loi s'écartait du bon droit, se faire lui-même justice. Il attendit le misérable, et au moment où son valeur montait les marches de la bourse, où il allait essayer de causer d'autres ruines, entreprendre d'autres vols, il lui tira un coup de pistolet.
Il tua cet homme ?
Non, il le blessa légèrement. Alors on arrêta notre père, on le roua de coups, on le jeta en prison. Tu dois deviner, sans que je m'attarde sur ce point, quel fut le martyre de notre mère à ce moment. Pendant de longs mois, elle endura 1000 souffrances physiques et tortures morales pour son cher prisonnier. Aux assises, cependant, la justice eut pitié. On vit peut-être qu'il était inutile de garder un malheureux qui, du cachot, allait promptement passer dans la tombe. Elle acquitta notre père. La justice acquitta la victime. Quelque temps après, notre mère prenait le deuil et nous étions orphelins.
Pauvre père,
écoute Antoinette, écoute bien ceci, ma sœur, et n'oublie jamais. Avant de rendre l'âme, notre père m'attira près de lui. « Mon fils, me dit-il, je vais mourir. Mes dernières paroles sont sacrées. J'ai rempli mon devoir d'honnête homme. Je te laisse un nom que tu peux porter haut, malgré la condamnation qui le souille. Je te laisse, pauvre mon enfant, ça n'est pas ma faute. Un misérable a pris mon argent. » Mais je te laisse un héritage qu'un homme comme moi ne peut laisser qu'à un fils comme toi. Je te lègue un devoir. Ton devoir est double, mon fils. Il faut que tu mettes sur ton nom assez d'honneur pour que la flétrissure de ton père soit non pas cachée, mais glorifiée. C'est par ta gloire qu'on comprendra mon martyr. Voilà ta première tâche. La seconde, c'est la vengeance implacable, la revanche de notre misère et de notre douleur, sans merci, sans pitié. Ne cherche pas à te venger par les armes. Ne demande pas une blessure au sang, une vengeance qui peut, comme il en a été pour ma tentative, auréoler ce misérable que tu veux frapper. Non, il faut l'atteindre plus grandement, il faut, vois-tu, qu'au jour de son triomphe, quand une joie se propose pour lui, quand un bonheur doit entrer dans sa maison, il faut que tu apparaisses et que tu lui dises « Vous êtes un voleur, vous êtes un assassin, mon père que vous avez trahi vous a maudit, et je viens vous le redire et je viens le crier pour appeler au ciel » que cette malédiction n'est pas éteinte. » Antoinette tressaillit.
« Robert, s'écria-t-elle, ma mère, oh, j'ai peur de comprendre. Cet homme, ce misérable, c'est... »
« Celui, s'écria Robert, celui à qui je devais rappeler que mon père l'a maudit. C'est cet homme chez qui un bonheur allait sourire. » Celui qui allait marier sa fille aînée avec un grand seigneur. Celui qui hier a été assassiné, c'est Monsieur Castanier. Alors, éclatant dans un moment d'exaltation, Robert, étendant les bras et levant la tête comme s'il parlait au ciel, s'écria « Mon père, sois content, ta dernière volonté est accomplie. « Celui qui t'a tué vient d'être tué, quand le bonheur entrait dans sa maison. » Puis, comme accablé, perdant tout à coup son exaltation, sa fièvre, Robert baissa le front, cacha sa tête dans ses mains, éclata en sanglots. « Ma chérie, dit doucement la mère Antoinette, laisse-nous seuls, ton frère et moi. » Quand la jeune fille fut sortie, La mère permit un moment à Robert de pleurer, de dégager son cœur, et de calmer son énervement par les larmes. Puis, doucement, lui posant la main sur l'épaule, « Mon fils, dit-elle, mon bon Robert, pourquoi tu dis tout cela à ta sœur ?»« Oh, ma mère, il le fallait, c'est nécessaire, c'est forcé. »«
Mais pourquoi ?»«
Ben parce que, oh non, je n'ai pas pu vous le dire, non. » « Non, ne me demandez pas pourquoi, ne m'interrogez pas. Oh, vous le saurez assez tôt. »«
Oh, mon pauvre enfant, je devine, je vois, je sais. »«
Maman, oh, maman,
tu es allé chez M. Castagnier. »
Robert inclina la tête. « Oui, mère. »«
Et tu as vu M. Castagnier ?»«
Oui, mère. » Le banquier, qui ne me connaissait pas, s'attendait à voir une autre personne que moi. Quand je lui ai dit mon nom, il a tressailli, frémi, s'est mis à trembler. En cet instant dramatique, j'ai compris la grandeur du justicier. Cependant, il se remit promptement, il voulut appeler ses domestiques, me faire jeter dehors, comme il le fit autrefois pour mon père. Mais les hommes et les choses ont changé aujourd'hui. Je l'ai mis au défi d'appeler, alors il s'est soumis. « Mais que voulez-vous enfin ?» me demanda-t-il. Oh, « ce que je veux, mais tout simplement vous dire que si vous êtes riche, ma mère et ma sœur sont pauvres et travaillent pour vivre. Vous dire que votre argent vous appartient, vous dire que vous êtes un voleur. » Il se dressa, vint sur moi furieux. Je continuai. « Je veux vous dire que vous avez trahi l'homme loyal et bon qui eut ce tort de faire de vous son ami. Vous dire que vous avez tué mon père. « Monsieur, voulut-il crier, vous allez vous taire ?»«
Pas encore. »
« Je veux vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus accabler les faibles. » Car les faibles sont les forts à leur tour. Alors que la famille Castagnier cesse de monter, la famille Alary grandit et gagne cette puissance morale, maîtresse de toutes, que lui donne l'honneur, le courage, les services rendus au pays. Ce n'est plus mon père, ruiné, malade, sans appui, qui a aujourd'hui à lutter contre le banquier Castagnier. C'est le capitaine Alary qui s'élève contre vous. Et je suis le plus fort. Tout votre argent ne peut rien contre mon épée. Toutes vos intrigues s'arrêtent devant mes galons durement conquis. Et les juges aujourd'hui, si vous en appelez à eux, les juges seront pour moi contre vous, pour moi le soldat pauvre, contre tous vos millions. Je veux vous dire que l'égalité des choses s'établit enfin. Vous avez cru nous déshonorer, nous accabler. Mais si le fils de votre victime a relevé le nom de son père, votre fils à vous, le meurtrier de mon père, est un faussaire, un voleur. Et voici que ce déshonneur que vous jetiez sur nous, retombe enfin sur vous, par votre enfant. Ah, c'est la belle revanche !» Robert souffla un peu, puis il reprit. Le banquier, cette fois, courba la tête. Alors je poursuivis. « Je voulais vous dire au surplus, monsieur Castagnier, qu'à son lit de mort, mon père me confia une mission sacrée, dont vous voyez que je m'acquitte. À tous les événements importants survenant dans votre famille, à toutes les fêtes de votre maison, je viens ainsi vous parler de mon père, vous crier votre infamie. Vous avez reçu des lettres, des cartes, des télégrammes vous rappelant votre infamie. Eh bien, tout cela venait de moi. Aujourd'hui, vous allez faire entrer un grand bonheur dans votre maison et couvrir le passé d'une couronne. unir votre famille à l'une des plus illustres familles de Sicile. J'estime qu'un télégramme ne suffit pas, qu'une lettre n'a pas assez de portée, et je suis venu moi-même. Moi-même, je suis venu vous dire au nom de mon père. Monsieur Castanier, voleur et assassin, le gentilhomme qui va s'unir à votre fille ne vous connaît pas. Il est bon qu'il connaisse l'origine de vos millions et qu'il sache quel misérable sera le grand-père de ses enfants. » Le banquier s'écria tout pâle. « Mais qu'allez-vous faire ?»« Mais ce que vous redoutez, répondis-je, ce que vous redoutez. Je vais donner connaissance au marquis Primo di Carmine de Santucci des numéros de la Gazette des tribunaux où sont inscrits les débats de l'affaire. Alary Castanier, je vais, moi, le fils du condamné, lui faire lire les considérants et les attendus qui vous concernent, vous qui avez gagné ce procès. » Oh, le banquier était comme fou, il me cria. « Mais vous ne ferez pas ça, ce serait trop cruel, ce serait trop infâme. »« Eh bien, monsieur, lui dis-je, cela ne vous changerait pas. Mais vous voulez donc ma mort? Oh, vous avez bien tué mon père. » Mais c'est mon déshonneur, c'est ma honte. Mon père n'est pas réhabilité et mon père était innocent. Cependant, monsieur, voyons, je comprends que vous vouliez vous venger des torts que vous m'attribuez. Vous êtes jeune, vous ne savez pas, vous étiez trop petit au moment de cette déplorable affaire. Vous croyez en votre père, mais c'est tout naturel, mais je vous jure que votre père... malade, eut une hallucination, qu'il perdit la raison. Il crut m'avoir confié son argent, et c'est de bonne foi, je le sais, qu'il me le réclama. Mais il n'avait rien à lui pour pouvoir le lui rendre. Je vous le jure, pardonnez-moi de dire le mot, mais votre père était fou. Monsieur, si mon père était fou... ce qui n'était pas. Ma mère avait toute sa raison. Or, ma mère a témoigné contre vous, et ma mère m'a répété ce que m'a dit mon père. D'ailleurs, puisque les tribunaux ont prononcé en votre faveur, pourquoi craignez-vous qu'on fasse connaître leur jugement ? Robert, qui répétait tout en la mimant cette scène à sa mère, changea alors de ton et ajouta: ah, le banquier était à présent devant moi, ah, non plus hautain et féroce comme tout à l'heure, mais humble et soumis. Il ne me menaçait plus de me faire jeter à la porte par ses valets. Il me parlait doucement, me suppliait. « Monsieur, me disait-il, envisagez-vous l'épouvantable malheur que vous allez causer ici. » « Oui, monsieur, mais cela ne m'arrête pas. » Pas plus que vous ne m'avez arrêté, vous, par la perspective du malheur que vous occasionniez chez mes parents. Or, vous étiez doublement coupable, car mon père était votre ami, et moi, j'ai cette excuse que je vous hais infiniment. Et monsieur, ma fille est innocente de tout cela. C'est elle surtout que vous frappez. Vous avez bien frappé ma mère, ma sœur, moi, qui étions... tous autant que votre fille, innocent. » Désespéré, le banquier ne savait plus que dire. Il bredouillait des mots inintelligibles et pleurait. Je me tenais en face de lui, droit, les bras croisés sur ma poitrine. Je le regardais. Ah, ma mère, quelle joie! Quelle jouissance inexprimable, incommensurable, divine, de voir verser des larmes à cet homme qui vous a tant fait pleurer. Enfin, il balbutia. Vous êtes donc inexorable. Comme vous, n'attendez de moi aucune pitié. Je suis plus que la vengeance, je suis la justice, le justicier, je frappe sans miséricorde. Il supplia. Enfin, monsieur, pour empêcher cela, que faut-il faire? Que voulez-vous? Je croyais le passé, sinon oublié, du moins atténué. Ah, il revient sous une autre forme, plus douloureux, plus navrant. J'ai des enfants, des filles, je veux écarter de leur front toute souillure. Je veux aussi que dans leur cœur, l'amour pour leur perte, qu'elle vénère, demeure sans flétrissure. Monsieur, luttez de nouveau avec mon bon droit, qui est, je le déclare encore, tout entier. Contre vous, sincère et croyant, comme hélas le fut votre malheureux père, s'est remué la boue, la vase pestilentielle. Nous en serons éclaboussés, quelques soins que nous prenions pour nous en garantir. Puis je ne suis plus d'âge aujourd'hui à recommencer la lutte. J'aspire au repos, à l'apaisement, à l'oubli. Voyons, monsieur, je fais appel à votre grandeur d'âme. Au nom de mes enfants, j'implore votre pitié. Pouvez-vous demeurer inexorable? Je vous le répète, je ne veux pas de scandale. Dites-moi combien vous estimez votre silence.
Il t'a dit cela, cet homme? S'écria madame Alary.
Robert inclina la tête avec un triste sourire.
Oui, il m'a dit cela. Il a osé me demander cela.
Monsieur, vous vous trompez. Je suis soldat, on ne m'achète pas. Je remplis un devoir, rien ne m'en détournera.
Alors il insista. Cependant, monsieur, si je me résignais aujourd'hui à ce que j'ai refusé d'accomplir autrefois, à me départir de ce droit que la loi m'a reconnu, si je réparais le passé, si je consentais à donner au fils Alary ce que son père me réclamait, si je revenais au jour où votre père et moi nous étions si amis.
Mon père n'est plus, monsieur, et moi j'ai une mission sacrée à accomplir. Revenir en arrière, c'est impossible. Adieu, monsieur.
Alors le banquier, comme je me disposais à sortir, se redressa.
Eh bien, monsieur, s'écria-t-il, vous voulez la guerre, ce sera la guerre, tant pis pour vous.
Ou pour vous. Demain, je ferai parvenir à votre gendre la gazette des tribunaux. Adieu. Il voulut marcher sur moi, mais il s'abattit dans son fauteuil devant son bureau. Il prit sa tête dans ses mains et éclata en sanglots. Voilà, ma mère, voilà ce qui s'est passé hier entre le banquier Castagnier et le capitaine Alry. Il y eut un silence entre la mère et le fils. Une question grave se posait que la mère n'osait formuler. Cependant, Robert, la pressentant, reprit presque aussitôt. « Que s'est-il passé dans ce bureau du banquier après mon départ? Je l'ignore. Je ne puis pas le savoir. On a trouvé, peu après mon départ, M. Castagnier et sa fille assassinés. Or, il paraît, d'après le journal, qu'on a vu entrer personne. » Que le garçon de bureau a déclaré que le dernier venu était un homme qu'il ne connaissait pas, un homme brun, moustache noire, allure militaire, portant le ruban de la Légion d'honneur. Il donne enfin un portrait tel que, fatalement, on me reconnaîtra.
Mais mon fils, pourquoi redouter cela?
Ah, ma mère, si vous saviez! Mais c'est notre nom, encore une fois, ce sont mes galons, c'est ma croix, mêlée à cette affaire épouvantable. C'est ma carrière brisée, peut-être.
Mais impossible, qui croirait que toi?
Hélas, mon père était aussi brave, aussi loyal, aussi au-dessus de tout soupçon que moi. Cependant, mon père a été condamné.
Oui, c'est vrai, mais toi, tu sauras mieux.
Et puis, ma mère, il faut vous dire tout.
pour pénétrer chez M. Castanier. Prévoyant qu'à mon nom la porte me serait refusée, j'ai commis une indélicatesse, un acte que le but excuse, mais qui n'en est pas moins blâmable.
Mais qu'as-tu fait, mon enfant?
J'ai pris le nom d'un de mes camarades que je savais lié avec la famille du banquier. Je me suis servi d'une de ses cartes. Oh, si on retrouve cette carte, le voilà, malgré lui, et de cette façon indélicate, je le répète, blâmable, mêlé à tout ce drame. Oh, c'est horrible! Madame Alary eut un cri de douloureux reproche.
Oh, pourquoi, mon fils? Pourquoi as-tu fait cela?
Mais j'ai voulu obéir à mon père. Tous les moyens me semblaient bons pour remplir mon serment. J'ai commis cette faute, cet abus de confiance. Mon ami est en droit de m'en demander raison ou de me refuser une réparation, car c'est plus qu'une indélicatesse. C'est en quelque sorte un faux, et il peut me déshonorer, me forcer à quitter l'armée.
Mon pauvre enfant! Oh, certes, la faute est grande, mais tout n'est pas perdu.
Oh, si. Oh non, je ne devais pas faire cela. Je ne le devais pas. Si on trouve la carte, si mon ami est en cause, c'en est fait de moi.
Mais qui le comprendrait ton acte? Qui le jugerait comme déshonorant? Qui pourrait, mon fils, te condamner, te blâmer?
Robert secoua douloureusement la tête. « Oh, ma mère, » fit-il, « vous parlez en mère. Mais moi, je suis un coupable, conscient de sa faute.
Il nous reste une chance dans ce cas, mon enfant.
Quelle chance dans ce malheur!
La carte peut ne pas être trouvée. Ton ami l'a laissé en dehors de l'affaire. Tout finira là.
Puis, peut-être avant-demain, on aura découvert le coupable, l'assassin du banquier et de sa malheureuse fille, et tes craintes s'effaceront par là même. Quant à tes scrupules de loyauté, tu t'expliqueras sur ce point avec ton ami, et tout finira par s'arranger, crois-moi. Allons, mon fils, du courage. Du courage.